Louer et remercier soit le Seigneur de ce que nous pouvons louer le sang de notre Seigneur. Nous savons que nous pouvons encore venir aujourd'hui sous le sang précieux. Oui, nous savons qu'il lave de tous nos péchés, de tout péché, de toute souillure, tache. C'est pour cette raison qu'il fut répandu là-bas sur la croix à Golgotha. Et nous sommes reconnaissants et heureux de ce que nous pouvons rester attachés à cela. Et nous savons que nos péchés sont pardonnés, nos fautes. Nous savons que nous sommes libres, affranchis. Et que personne ne peut nous dérober cela. Mais bien aimé, mais ce que Dieu nous a donné, ce qui s'est passé avec nous par la grâce de Dieu, cela, personne ne peut nous l'ôter. Et pour cette raison, nous voulons lui dire merci de lui apporter l'honneur et l'adoration et la louange. Et si le psalmiste déjà le dit dans le psaume 115, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qui lui plaît, tout ce qu'il veut. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et ça, nous pouvons le croire de notre cœur. Il fait tout ce qu'il lui plaît, en allemand. Parce que les hommes lui dictent, parce que nous nous imaginons, ou bien pensons, ou bien concevons, mais c'est ce qu'il veut, ce qu'il fait, ce qui lui plaît, c'est ce qu'il fait. Et aucun homme ne peut changer les choses et essayer d'empêcher cela. Nous voulons nous rester attachés à sa volonté, à son bon plaisir, à sa parole, à ses ordonnances, à ses commandements, pour ne pas être trouvé éloigné de lui. Car ici, dans les Proverbes, il est écrit aussi une parole merveilleuse, dans le psaume 28, à partir du verset 7. À partir du verset 4, pardon. Proverbe 28, verset 4. Ceux qui abandonnent la loi, ou bien, oui, la parole de Dieu louent le méchant. Mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Bien aimé, c'est ici réellement. Nous ne voulons pas manquer de mettre sa parole en pratique. Nous ne voulons pas mépriser sa parole. Nous voulons la mettre en pratique. Et c'est peut-être raison que nous venons toujours de nouveau ici nous rassembler. Et alors, celui qui met sa confiance en lui, en sa parole, il est assuré. Et nous savons que sa parole demeure éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles demeurent éternellement. Au verset 26, il est dit, « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. » Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et je voudrais dire, nous n'avons pas besoin de nous confier à notre cœur, mais nous pouvons nous confier à la parole de Dieu infaillible. Et alors, c'est ainsi que nous pourrons nous échapper de tout ce qui viendra. Et nous sommes heureux d'avoir reçu cette grâce de Dieu. De ne pas nous confier dans les opinions des hommes, au cœur des hommes, mais nous confier seulement à la parole de Dieu infaillible. Et là, nous sommes heureux et reconnaissants. Ici, encore un peu plus loin, il est écrit, dans le psaume 115, au verset 4, il est écrit encore, « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. » Et ceux qui se confient en elle. Et Israël, confie-toi en l'Éternel. Nous devons faire confiance à l'Éternel. Nous avons été sauvés par sa grâce et nous voulons de tout notre cœur lui faire confiance. Car dans ce monde, tout fait que plus s'obscurcir et devient toujours plus ténèbre et les hommes sont égarés. Mais il y en a un qui reste fidèle, c'est le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Et nous voulons ce soir lui apporter l'honneur et la louange. Ici, ce psaume dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire. Bien-aimé, nous ne voulons pas recevoir l'honneur des hommes. Nous voulons que le nom du Seigneur plutôt soit glorifié, lui et lui seul. Et nous voulons lui le louer et nous voulons nous lever pour la prière commune. Dieu fidèle, nous te remercions de la plénitude de notre cœur, de tout notre cœur, pour ce jour de grâce. Nous te remercions pour tous ceux qui sont venus, pour tout ton peuple, Seigneur, qui dans ces jours a été appelé par toi, avec voix puissante, Dieu fidèle. Tu as parlé, ô Seigneur, pas que tu n'aies pas parlé, tu as parlé et tu parles encore. Tu travailles, Seigneur, et nous voulons écouter ce que tu as à nous dire. Nous ne voulons pas ta loi, nous ne voulons pas abandonner ta loi, mépriser tes ordonnances, tes instructions. Nous voulons les observer, les mettre en pratique. Nous te remercions de ce que nous avons cette grâce, Seigneur, d'avoir reçu notre intelligence ouverte par toi et que nous avons compris que nous devons seulement être conduits uniquement par toi et par toi seul dans ces derniers jours. Pendant que les hommes savent pas ce qu'ils font et vont ici et vont là et consultent des hommes, nous ne pouvons nous appuyer sur ta parole et sur les promesses que tu nous as données par ta grâce. Seigneur, tu as parlé avec nous comme avec tes disciples autrefois et tu nous as révélé ton dessein de salut et nous voulons pour cela te louer et élever ton Saint-Nom et louer ton sang qui a coulé à Golgotha, sous la croix à Golgotha. À toi soit l'honneur, Seigneur. Nous te demandons, continue à parler encore ce soir avec nous. Bénis mon frère, accorde la parole adéquate. Utilise-le comme ton ustensile, comme ton outil. C'est peut-être la raison que tu l'as appelé. Bénis ce soir, Seigneur, et ceux aussi qui ne pouvaient pas venir, nous te demandons dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur pour le grand privilège que nous avons de nouveau d'être ici pour adorer et pour apporter au Seigneur la reconnaissance que nous lui devons de tout notre cœur. Il n'y a pas mieux et plus beau sans effort de faire cela. Au Seigneur, lui apporter la reconnaissance selon la parole de l'Écriture. La bouche s'ouvre selon l'abondance du cœur. Si dans notre cœur, la reconnaissance à Dieu monte à tel point qu'elle est pleine et déborde, alors c'est en ordre. Le frère Branham disait une fois, si vous chantez seulement autant que la musique résonne et est entendue, et que quand la musique s'arrête et votre louange aussi s'arrête et vous arrêtez aussi de remercier le Seigneur, alors il dit, il y a quelque chose qui ne va pas encore. Chantez et jouez des instruments au Seigneur dans vos cœurs avec des cantiques et avec des reconnaissances. Je sais que ce n'est pas facile, mais dans notre cœur, on peut le faire sans qu'il y ait des cantiques qui sont joués. Même si ce n'est pas toujours avec la bouche qu'on peut, mais dans le cœur, on peut le faire. Cela devrait, et personne ne peut ôter cela à quelqu'un. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Nous avons déjà écouté, nous avons eu un après-midi très épuisant, ce qui était là de 14h à 17h, mais c'était plein de bénédictions et c'était bien. Et nous espérons que ces jeunes, à peu près, il y avait 20 jeunes frères et sœurs, 20 personnes. Nous espérons qu'ils sont repartis avec quelque chose. Et tous ceux qui étaient ici, je voudrais poser la question, est-ce que nous pouvons encore nous imaginer que nous serions dans leurs chaussures? Et dans les questions qu'ils avaient et dans les manières d'argumentation. Seulement si nous pouvons cela, nous allons pouvoir aussi toucher leur cœur, atteindre leur cœur. Mais si, nous leur rasons la barbe, même s'ils n'en ont pas, alors ce ne sera pas possible d'atteindre leur cœur. On doit de tout notre cœur, s'ajuster aux personnes qui sont devant nous et ne pas se lever au-dessus d'eux, mais toujours au-dessous d'eux. C'est seulement comme ça qu'on pourra porter la personne, aider la personne. On doit ne pas se porter les fardeaux l'un des autres, mais ce n'est pas possible si on se lève, si on est au-dessus de l'autre. C'est seulement possible de porter les fardeaux l'un de l'autre si on est, on est plus bas de la personne. On s'abaisse. Si on veut soulever quelque chose, on doit s'abaisser. Aller au niveau de la, où ce qu'on veut soulever est et puis soulever la chose. Et si on veut aider quelqu'un, on doit pouvoir s'abaisser plus bas que les personnes pour pouvoir les aider, les porter. Et je me suis réjoui de tout mon cœur, de la participation de nos frères ici. Et la première fois, ça allait bien. La deuxième fois, ce sera mieux. Et si cela continue encore, ce sera exactement très bien. Nous sommes reconnaissants de ce que vous soyez venus. Nous vous souhaitons à tous les riches bénédictions et nous vous souhaitons plutôt la bienvenue et que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Nous remarquons aussi dans les entretiens les uns avec les autres, là où on a soi-même des manquements. Si on est comme ça, quand on est entièrement parmi nous comme ça, on pense peut-être puiser, n'est-ce pas, de la source. Et quand certaines questions nous sont posées, alors on remarque comment est-ce que les fins ici et là ne sont pas atteintes. Mais remercie soit le Seigneur, notre Dieu, pour chaque personne qui peut encore comprendre qu'il n'est pas là où Dieu veut l'avoir. Et le Seigneur a fait de grandes choses en nous et de bonnes choses en nous. Il nous a pris à son école et nous pouvons nous asseoir à ses pieds et nous avons entendu des paroles que des millions n'ont pas entendues. C'est quelque chose de grand, mais cela nous plie, nous abaisse dans la cendre et la poussière. Et quand on pense à ce que beaucoup n'avaient pas encore l'occasion et encore jamais entendu encore de ce que Dieu fait maintenant. Et on sait qu'ils sont assis donc, au mauvais endroit. Le Seigneur n'est même pas là. Parce que là où il y a le Seigneur, là il y a sa parole. Il y a la révélation de sa volonté. Mais alors, cela nous conduit à demeurer humble dans notre cœur et avoir de la compassion. Ça, c'est un don de Dieu. Demeurer humble et avoir de la compassion. Et le Seigneur nous l'accorde toujours de nouveau. Et nous pouvons, avec Paul, dire, ce que je suis, je le suis par grâce. Et la grâce de Dieu, justement, nous ne l'avons pas reçu en vain. Je suis préparé pour rien du tout, seulement préparé à ce que Dieu nous bénisse. Et cela suffit en fait déjà. Nous sommes préparés à ce que le Seigneur nous bénisse ensemble. Et tel qu'il nous a enseigné dans les Écritures, c'est ainsi que il veut aussi nous apprendre la foi. Et le Seigneur a, n'est-ce pas, enseigné ses disciples. Il leur a pas appris la foi par théorie, en théorie, avec de la théorie, mais dans la pratique, toujours dans la pratique. Donc, le Seigneur, il est écrit qu'il a commencé à faire les deux. De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Nous commençons à enseigner et nous laissons le faire. Lui, il a commencé avec le faire, commencer de faire et d'enseigner. Ensuite, faire, pratiquer et ensuite enseigner. Et c'est comme ça, dans Acte 1, verset 1, c'est comme ça que tout s'était enseigné de Dieu. Il voyaient l'œuvre de Dieu, le faire de Dieu dans sa confirmation et ensuite l'enseignement encore à s'est ajouté à l'action du Seigneur. Je voudrais aussi me joindre à la parole que nous avons lue. J'étais vraiment étonné de relire ce que le Seigneur a dit ici. Je crois que c'est le psaume 115. Ici. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Psaume 115. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 41, dans Jean 5, verset 41, « Je ne tire pas ma gloire des hommes. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais, Jean 5, verset 42, maintenant, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? Ici en allemand, du Dieu unique. Ici, nous avons une expression importante. Alors que notre Seigneur marchait sur cette terre, il a rejeté chaque honneur, mais il a constaté comment est-ce que les conducteurs spirituels cherchaient la gloire et ont attiré l'honneur à eux. En robe, en vêtements, ils sont allés sur les places publiques et tous les ont salués. Et quand les fêtes avaient lieu, et il y avait toujours eu des fêtes, n'est-ce pas, qui avaient à fêter, ils se sont, n'est-ce pas, choisi les places d'honneur. Mais ils n'ont pas cherché l'honneur, la gloire, la faveur qui vient de Dieu. Et d'être inséré dans le programme de Dieu, car c'est par cela qu'on commence à accepter le Seigneur et à croire sa parole. Ils n'ont pas cherché cela. Ils n'avaient aucun désir vers cela. Et ils devaient déjà dire autrefois que si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Combien de fois nous avons insisté? Celui qui, dans ces derniers jours, ne prête pas l'oreille à la parole de Jésus-Christ, il va automatiquement prêter l'oreille à la parole de l'Antichrist. Et entre les deux choses, il se tient seulement la désobéissance et rien d'autre. On ne peut pas servir deux maîtres et non plus atteindre deux buts en même temps et ne pas marcher sur deux chemins en même temps ou bien en même temps servir deux maîtres. Et Dieu veut faire de nous des hommes qui marchent dans ses voies et qui, de tout leur cœur, le servent. Ici, il s'agit, comme le Seigneur le dit, mais je sais que vous n'avez point en vous, il dit en allemand, mais j'ai reconnu en vous que vous ne portez pas l'amour de Dieu, que vous n'avez pas l'amour de Dieu. Des hommes religieux de la tête jusqu'aux pieds connaissaient la Bible par cœur, mais ils n'avaient pas l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Ils avaient l'amour pour leur ministère, pour l'honneur reçu des hommes et pour autre chose, mais pas l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Au verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Quelle parole prophétique ici! Pour tout le temps de la grâce, ne pensez pas que l'esprit antichrist là a été appelé à l'existence depuis hier. Non, non, non. Jean disait que l'antichrist vient et il y a déjà beaucoup d'antichrists qui ont apparu. Il y a toujours eu ces deux lignées. Caïn et Abel. Moïse et Balaam. Christ et Judas. L'antichrist et Christ à la fin. Toujours, ces deux lignes, ces deux lignées. La différence est à reconnaître clairement. Dieu se tient seulement de notre côté si nous nous tenons, si nous nous sommes tenus de son côté. Et que par cela, il est révélé que nous l'aimons. Si nous l'aimons, alors nous aimons sa parole au-dessus de toute chose. Et alors, nous la recevons dans notre cœur. Il est même remis en question et il est dit, comment est-ce que vous pouvez croire si vous tirez votre gloire les uns des autres? Ici, il n'est pas parlé de majesté ou bien de dignitaire, mais simplement de reconnaître Dieu et la révélation de Dieu en Christ. Les hommes sont tous les mêmes et il n'y a pas quelqu'un qui pourrait revendiquer la gloire pour lui. Et notre Seigneur dit ici, mais vous ne cherchez point la gloire qui vient du Dieu unique. Vous ne cherchez pas, vous n'avez aucun désir pour... Imaginez-vous cela. Ils ont cherché la gloire qui vient des hommes. Mais la gloire qui vient de Dieu, ils sont passés à côté de cela. Vouloir plaire aux hommes, avoir la faveur des hommes, sans penser à comment est-ce qu'on pourrait plaire à Dieu et avoir la faveur de Dieu. Ces deux lignées-là existent encore aujourd'hui. Et nous le voyons encore plus clair. Cela apparaît. De quel côté les hommes se tiennent. Et remercions le Seigneur de ce qu'il y a un reste maintenant encore aujourd'hui qui n'a pas fléchi, qui ne peut pas fléchir ses genoux devant Baal et qui ne fléchira pas ses genoux devant Baal. Mais des hommes qui ont fléchi leurs genoux devant Dieu et lui ont livré, donné leur vie, de tels gens ne vont jamais fléchir le genou devant un homme, même s'il prétend être Dieu. Mais nous voyons, tous cherchent la gloire des hommes. Ils se mettent à genoux et reconnaissent quelqu'un qui vienne en son propre nom. Ils reçoivent quelqu'un qui vienne en son propre nom. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la gloire qui vient des hommes. Ils tirent la gloire des hommes. Mais il y a une semence divine qui est déterminée ici sur cette terre et ensuite dans la gloire, à exister ici sur cette terre et ensuite à être dans la gloire. Et comme Paul pouvait dire, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Et si nous ne sommes pas à grâce, alors ce n'est pas par des œuvres. Et si ce n'est pas à grâce, alors c'est seulement ainsi pour qu'aucun homme puisse se glorifier devant Dieu, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie dans le Seigneur et se glorifie dans le Seigneur qui est fidèle et qui fait grâce à ceux qui le cherchent et trouvent en lui le refuge. Jean 5, maintenant le verset 46, car si vous croiriez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? La foi vient de la prédication. Et la prédication vient de la parole de Dieu. Et ça, nous l'avons reconnu, et peut-être que nous le soulignons à cause de ceux qui pensent que nous mettons frère Branham à la première place. Je le dis comme je le pense dans le plus profond de mon cœur et je sais que c'est correct, c'est juste. Nous n'élévons pas un homme et nous n'honorons pas un homme non plus. Mais nous avons en fait reconnu ce que Dieu a fait. Nous ne l'avons pas méprisé et rejeté, mais nous avons de tout notre cœur reçu celui que Dieu a envoyé, celui par qui Dieu a parlé. Selon la parole de l'Écriture, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra le salaire, la récompense d'un prophète. avec cela, nous n'honorons pas un homme. Nous n'honorons pas un homme. Mais nous donnons à Dieu seul toute la gloire, toute l'honneur. Dans le psaume 115, il est écrit encore, « Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ?» Le verset 2. Psaume 115, verset 2. « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Il fait tout ce qu'il veut. Dieu n'est pas seulement au ciel. Dieu a établi sa demeure, a fait sa demeure en toi et en moi, dans ton cœur et dans mon cœur, dans notre cœur, pour qu'il puisse ici sur cette terre faire ce qu'il s'est proposé de faire au ciel. Il le fasse sur terre. Et ça, nous avons assez souligné cela. Le Seigneur s'est préparé un corps, une église, par laquelle il veut parler et agir sur cette terre. Et si il est écrit, leurs idoles sont des sont de l'argent et de l'or, verset 4, elles sont l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Notre Dieu peut faire tout ça. Il peut parler, il peut écouter, il peut marcher, il peut voir. Notre Dieu est capable de faire tout. Et nous pourrions maintenant introduire des exemples. Par exemple, dans le jardin d'Éden, il marchait. Il a écrit les 10 commandements. Dieu peut même écrire, il était le premier qui a écrit. Avant même que quelqu'un savait ce que c'est que écrire. Avant même que quelqu'un sache ce que ça veut dire écrire, le Seigneur a écrit sur des tables de pierre les 10 commandements. Dieu peut lire. Dieu peut parler. Dieu peut se révéler. Mais bien-aimés, nous devons plus nous attendre à la présence de Dieu. Nous ne devons pas penser à Dieu dans les jours passés, mais du passé le rapporter dans le présent pour savoir que ce que Dieu était hier, il est aujourd'hui encore et il le sera encore demain. Et ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il le fera encore demain. Ça, c'est notre Dieu. Pas celui que nous nous fabriquons, une idole, et à qui nous ajoutons deux oreilles et avec nos mains formons une silhouette. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas nous qui créons Dieu, mais nous croyons qu'il nous a créés. Et c'est en cela qu'est constituée une double révélation que le Seigneur nous a accordée. Tous ceux qui ont une imagination de Dieu, sur Dieu, et qui se fabriquent un Dieu, à la fin, ils n'ont pas Dieu. Ils ont une idole, qui a des oreilles, c'est vrai, un nez, et qui semble à une belle apparence avoir. Mais il n'y a pas de vie, ne peut pas voir, ne peut pas écouter, ne peut pas marcher, ne peut pas entendre, ne peut pas parler, rien du tout. C'est la même chose rapportée au spirituel. Sur tous ceux qui n'ont pas reçu la révélation de Jésus-Christ. Il se fabrique son Dieu. Et j'étais vraiment étonné alors que dans les derniers jours, les deux, dans un catéchisme catholique, et que là, j'ai vu cette divinité. Quand on regarde dans le miroir, il y a une image à droite. On voit le Père assis. Il a son sceptre dans la main au milieu. Donc, à gauche, il y a le Fils avec la croix dans sa main. Et puis, il tient un livre. Et puis, avec l'autre main, il attend sur le livre. Et puis, entre les deux, il y a une colombe suspendue entre les deux. Ça, c'est pas notre Dieu. Notre Dieu est un seul Dieu, constitué d'une seule personne, et il est véritable. Parce que les hommes peuvent s'imaginer. Non. J'étais vraiment saisi de colère intérieurement, et j'ai pensé, comme facilement, rapidement, les gens, d'après leurs propres imaginations, peuvent se faire Dieu, se créer Dieu. Mais tous ceux qui vraiment ont compris que c'est Dieu pour célébrer sa gloire nous a créés. Ces gens-là qui ont reconnu cela, ils n'ont pas une propre imagination de Dieu. Ils ne laissent pas comme ça leur pensée libre. Ils vont aux traces de la révélation de Dieu lui-même. Dieu, selon sa nature, est esprit. Et dans le déroulement du temps, il s'est révélé. Il marchait déjà dans le jardin d'Éden. Il était dans la colonne de feu. Christ était le rocher qui accompagnait le peuple d'Israël par le désert. Qui veut expliquer tout cela? Dieu ne cherche pas des gens qui peuvent expliquer cela. Il cherche des gens qui peuvent croire cela et qui entièrement se tiennent de son côté. Vous, ils ont des mains, ils ont des... et ils ne peuvent rien toucher. Notre Dieu est au ciel. Il peut parler, il peut agir, il peut sauver, il peut guérir, il peut bénir. Et nous attendons plus à se faire attendre, plus le désir monte, pas dans l'impatience, mais dans la pleine foi que notre Seigneur, notre Dieu, aussi dans le domaine de la confirmation divine de la parole de Dieu, il recevra ce qui lui revient de plein droit là aussi. Aussi certain que nous avons reçu l'enseignement et que nous avons été ramenés à la parole originelle et à la foi originelle, c'est aussi certain aussi que le Seigneur veut se révéler. Toujours de nouveau, il a enseigné à ses disciples la foi. Et à chaque fois qu'il ne pouvait pas croire, il était très triste, attristé, très attristé. Dans Matthieu chapitre 12, je vais lire à partir du verset 15. Matthieu 12, verset 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. En allemand, dont il guérit tous les malades. Restons d'abord ici à ce verset. Dont il guérit tous les malades. Une grande foule le suivit. Celui qui suit le Seigneur a le droit d'expérimenter sa guérison, son salut et sa délivrance. Le Seigneur Jésus ne vient pas pour attirer à sa suite un mélange, mais des hommes en qui il peut se glorifier, dans leur âme, leur esprit et leur corps, partout où et tel que cela est nécessaire. Il guérit tous les malades, tous ceux qui le suivit. Une grande foule, tous ceux qui le suivaient, il les guérissait. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui croire cela? Si nous suivons le Seigneur, si nous le suivons et que nous lisons cela dans la parole de Dieu ici, tous ceux qui le suivaient, il les guérissait. Donc nous, en tant que les disciples de Jésus-Christ, nous avons un droit divin au salut, à la guérison de notre corps et à la délivrance. Nous devons vraiment de tout notre cœur pouvoir dire amen à cela et ajouter un amen à cela et dire: Seigneur, si cela, je ne peux pas encore entièrement le croire, aide mon peu de foi pour que je puisse l'accepter, le confesser. Ici encore, verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas un conduit plié et il n'éteindra point le lumignon qui fume, en allemand, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom, mettant leur confiance en son nom. Oh, quelle parole puissante! Les nations mettront leur confiance en son nom. D'abord, le salut était pour les Juifs, et c'est écrit, était prévu pour les Juifs, et il est écrit que le salut vient des Juifs. Vous savez qu'il vient de Dieu, le salut. Mais les Juifs l'ont rejeté, et c'est ainsi que des Juifs, il est venu aux païens, aux nations. De notre Seigneur, sur notre Seigneur, se reposait l'Esprit de Dieu, pour que chaque promesse qui était écrite le concernant s'accomplisse par lui. Aussi, sur nous, le même Esprit de Dieu doit se reposer, doit venir se reposer. Alors, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, il n'y aura pas de contestation, de cris, de querelles, de disputes, mais seulement un ministère qui sera effectué dans l'Église pour la gloire de Dieu, là où on entend des disputes et des querelles et des contestations. Bon, on devrait penser que des gens qui ont cru devraient recevoir la langue coupée. Chacun qui ne peut pas mettre sa langue à la disposition du Seigneur, il devrait au moins la fermer. Sa bouche, on ne peut pas ne pas écouter et voir quel dégât, toujours de nouveau, est produit par le fait que justement les plus pieux parmi les plus pieux sont sans tact. Ils veulent servir Dieu de tout leur cœur, mais ils le font avec maladresse, et cela est vraiment étonnant de le voir. Maintenant, Dieu est là pour nous tous, mais nous voulons atteindre cette position, cet état où tout ce qui n'est pas, tout ce qui est maladroit et tout ce qui pourrait produire de la tristesse et pourrait blesser, tout ce qui pourrait se mettre en obstacle de l'un et de l'autre, à l'un et à l'autre, que nous ne nous permettions plus que cela arrive, mais que chacun puisse trouver sa place. Plus de contestations, de disputes, de querelles. Personne ne fait entendre sa voix, des cris. Personne ne fait entendre sa voix, si ce n'est qu'il ait quelque chose à dire qui servirait à la bénédiction et à l'édification de l'autre. Combien de fois nous l'avons dit, Seigneur, que nous soyons, fais-moi devenir une bénédiction pour les autres. Et pour qui est-ce que tu es devenu une bénédiction? Pour qui? Dieu veut nous bénir pour que nous puissions aussi servir de bénédiction pour les autres. Il ne cassera pas un conduit plié. Le verset 20. Il n'éteindra point le lumignon qui fume. Bien alors la mèche. Vous savez que jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Notre Seigneur va avec triomphe achever son œuvre. Pas seulement, pas comme ça avec un peu de dignité, mais avec un grand triomphe, tel qu'il a vaincu la mort, l'enfer et le diable. Et qu'il a triomphé, et que le troisième jour, il est ressuscité des morts, et qu'après les 40 jours, avec tous ceux qui étaient ressuscités avec lui, il est monté dans la gloire. C'est ainsi que, lors de son retour, il aura révélé sa victoire totale. Christ et Paul écrit ce qui ne s'est pas encore manifesté, que tous les ennemis sont placés sous son marchepied, car le dernier ennemi est la mort. Et c'est ainsi que nous le remarquons. À chaque enterrement, la mort est toujours encore là, prend des croyants et des incroyants de la même manière. Mais, comme nous l'avons souvent souligné, particulièrement dans la prédication, dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, où le Seigneur, concernant les prophètes à qui la parole a été adressée, il a dit, vous êtes des dieux. Ils sont des dieux. Mais, comme des hommes, vous mourrez. Vu tristement, c'est un paradoxe. D'un côté, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Oui, la mort n'est pas la fin de toute chose. La mort est la même chose pour les croyants, bien pour les incroyants. C'est le même cimetière, c'est le même cercueil qui coûte la même chose, c'est le même cimetière, c'est la même tombe. Mais ce n'est pas tout. Tout ne s'arrête pas avec cela. Nous pouvons être reconnaissants de ce que notre foi est dans le Dieu vivant. Car Christ Jésus, notre Seigneur, a vaincu la mort et triomphé sur l'enfer. Un croyant, son corps est de la même manière mis dans un cercueil et il est enseveli, etc., comme tous les hommes. Mais le croyant n'est pas dans la tombe, c'est seulement la tente dans laquelle il habitait. Un croyant va au paradis, dans la gloire de Dieu. Notre Seigneur achèvera son œuvre avec triomphe. Et alors, cette parole merveilleuse ici, au verset 22, alors on lui amena, verset 21, et les nations espéreront en son nom. En allemand, mettront leur confiance en son nom. En son nom, le pardon des péchés doit être prêché à toutes les nations, en commençant à Jérusalem. Et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Nous pouvons dire à toute l'humanité et apporter à toute l'humanité cette grande offre de la grâce de Dieu au nom du Seigneur, apporter à l'humanité qui nous a tant aimés et qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, qui avec triomphe achèvera son œuvre. Parfois, cela n'a pas l'air d'être ainsi. Quand nous regardons, si nous regardions aux choses visibles, alors nous pourrions dire, Seigneur, comment est-ce que ça devrait se terminer? Comment est-ce que ça devrait se terminer? Mais nous faisons comme Moïse et comme Abraham et tous les vrais serviteurs et enfants de Dieu. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons à l'invisible comme si nous le voyons. Et alors, nous nous sentons mieux. Alors, une nouvelle force de foi, une nouvelle assurance, un nouveau courage monte dans notre cœur et réellement, nous sommes fortifiés dans la foi. Ici, il y a une autre parole qui, en fait, s'ajuste à ce que nous avons déjà lu mercredi soir dans Matthieu 13, à partir du verset 41. Matthieu 13, verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et là-bas, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si avec ces paroles, nous allons à ce que nous avons lu déjà mercredi soir, de l'évangile de Matthieu, le chapitre 18. Dans Matthieu 18, à partir du verset 6, il est écrit. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Au fond de la mer. Nous avons entendu ce mot scandale dans Matthieu 13, verset 41. Et ici, ensuite, le Seigneur réfère ce mot au sien. Et il dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Pourquoi une meule de moulin? Parce qu'il y a trop de dangers qui scandalisent les autres. Ensuite, plongent dans l'eau et ressortent. Ils savent très bien aller sous l'eau, très bien nager. Après avoir produit tous ces scandales, en scandalisant les autres, après avoir produit des scandales partout et scandalisé tout le monde. Et parce que le Seigneur a discerné ces gens, il a dit, c'est mieux qu'on les mette sur leur cou une meule de moulin parce qu'ils puissent rester en bas et ne pas plonger et revenir à la surface et nager. Non, je pense que cette parole ici, elle est sérieuse. Telle que Dieu l'a pensée, sérieusement. Ce n'est pas des paroles que je dis ici devant la chair à la légère. Ce n'est pas des blagues. Ce sont des saintes paroles de notre Seigneur. Pour de tels gens qui produisent des scandales dans le royaume de Dieu, parmi le peuple de Dieu, qui apportent des scandales et se font encore, ils se glorifient encore avoir produit quelque chose et avoir fait quelque chose. Ils pensent être quelque chose. Ils ne vont pas échapper. Non. Et l'heure est là. Dans le temps dans lequel tout sera lié, les mauvaises herbes et les vraies, aussi ces scandales, tous ces scandales-là seront ôtés du royaume de Dieu et ôtés de tous ceux qui les ont commis. Et à la fin, il faut qu'il y ait une église de Dieu qui apparaisse, qui avec droit porte son nom, parce qu'il peut se révéler parmi elle, donc l'église. Et c'est le point ici que beaucoup ne comprennent pas. C'est là, il continue encore. Car avec toute séduction, il y a un esprit séducteur. Avec toute erreur, un esprit de tromperie. Avec toute interprétation, explication de la parole de Dieu. Avec toute connaissance et enseignement qui ne sont pas bibliques, ça peut déjà être un scandale qui est porté dans le royaume de Dieu par ceux qui interprètent et qui expliquent. Et Paul écrit aux Galates, « Malheur à ceux qui vous séduisent, qui vous troublent. » Galates 5, verset 10 à 12. Maintenant ici dans Matthieu 18, verset 7. « Malheur aux hommes à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Verset 8, Matthieu 18, « Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil, etc., etc. » Ensuite, au verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petit, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Dieu nous a déterminés à être dans son royaume. Il a vu à l'avance qu'il y aurait des scandales et des séductions qui viendront à Judas. Ou bien alors de lui, il était déjà prédit qu'il serait celui, et il a même écrit, ça aurait été mieux pour une telle personne qu'il soit jamais né, mais pour que l'Écriture s'accomplisse. Combien de fois nous l'avons souligné de Matthieu 24, verset 24, que justement les choses seront tellement proches l'une de l'autre que si c'était même possible, nous n'avons pas besoin de regarder dans les grandes dénominations, d'aller dans les grandes dénominations pour voir la séduction et la tromperie. Nous avons seulement besoin d'apprendre de l'histoire de l'Église que l'ennemi ne s'est retenu devant les plus grands réveils. Non. Et que maintenant, à la fin, il ne se retiendra pas non plus. Et toujours, il fera tout son effort là où Dieu commence à agir, là il va commencer aussi à apporter du désordre et de la confusion, car il a déjà séduit tous les autres et il a déjà attiré à ses côtés. Et il veut maintenant produire des dégâts dans le royaume de Dieu. Ces paroles-là sont très sérieuses. Et le Seigneur maintenant veut nous apprendre la foi, comme il était si insatisfait avec ses disciples autrefois parce qu'il n'avait pas exercer le pouvoir divin qu'il leur avait donné. Et il a dit, combien de temps encore est-ce que je devrais encore vous supporter? C'est dans Matthieu 17, à partir du verset 16. Cet homme ici dit, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, verset 17, Matthieu 17, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. On ne peut pas le dire cette parole sans penser au ministère incomparable de Frère Branham. Et je comprends toujours plus pourquoi est-ce qu'au commencement, il a toujours laissé chanter ce cantique. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Dans la foi, il s'est mis du côté de Dieu, du côté des promesses de la parole. Et tout ce qui se tenait contre le témoignage de la parole, il a vu ça comme un mensonge. Et les promesses de Dieu, en tant que vraies, il les a considérées en tant que vraies et réelles. Et dans la foi, et dans l'œuvre de la foi, de l'action de la foi, il a honoré Dieu. Ici, il a donné la gloire à Dieu. Ici, les disciples n'ont pas pu guérir un malade et le Père vint ensuite à Jésus. Et vous voyez ici ce qu'il disait aux siens. Ô vous, race incrédule et perverse, si le Seigneur t'adresserait une telle parole à toi et à moi, nous serons blessés jusqu'à tout le long de notre vie. Mais ici, il est écrit que la foi sans les œuvres est morte. Si une chose est morte, alors nous voulons l'ensevelir. Et quelqu'un de nous tiendrait alors l'oraison funèbre. Qu'est-ce que nous voulons avoir à faire avec une foi morte avec laquelle nous pouvons nous faire ensevelir? Ce dont nous avons besoin, c'est d'une foi vivante. Et j'ose dire, la foi dans le Dieu vivant doit être une foi vivante. La foi dans des idoles mortes est une foi morte. L'idole ne peut pas entendre, voir et rien faire du tout. Mais notre Dieu est un Dieu vivant. Et parce qu'il est un Dieu vivant, un Dieu qui vit, c'est peut-être raison que notre foi en lui est une foi vivante. Si c'est une foi vivante, alors là, il y a la vue, il y a la marche, il y a le mouvement, il y a les yeux, il y a les oreilles. Alors par la foi en Jésus-Christ, nous sommes vivifiés, comme il est écrit, par la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô vous, race incrédule et perverse. Il le dit à ses disciples, à ceux qui le suivent. Il le dit aujourd'hui à nous, ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Ô vous, race incrédule et perverse, vous croyant, combien de temps est-ce que vous voulez encore exister et persévérer dans l'incrédulité et ne pas croire comme l'a dit l'Écriture? Ô vous, incrédule et perverse, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Quelle serait notre réaction si le Seigneur nous tenait une telle prédication aujourd'hui? Combien de temps je devrais encore être parmi vous? Jusqu'à quand est-ce que je vous supporterai-je et je me donnerai encore des efforts? Combien de temps est-ce que je devrais encore parler avec vous, vous instruire encore, vous enseigner et vous révéler encore les paroles de Dieu? Combien de temps est-ce que cela devrait encore continuer à durer comme ça avec vous sans que un résultat divin soit à voir et à entendre? Mes bien-aimés, devant ce devoir puissant, nous nous tenons tous maintenant. Le Seigneur a parlé avec nous. Et il est satisfait avec nous parce que nous avons bien écouté les prédications. Dans la foi, nous avons reçu son instruction. Mais maintenant, il veut que dans la foi, nous puissions passer à l'acte et aller de l'avant avec lui. Le même Seigneur, avant de partir de cette terre, il a prononcé cette phrase puissante. Il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et encore de plus grandes, car je vais auprès de mon Père, vers mon Père. Il faut que cela arrive à cet état, que notre foi ait deux pieds bien portants, deux yeux bien portants, deux mains bien portantes, que notre foi puisse se mouvoir, puisse vivre dans le Dieu vivant. Et cela nous montre les héros de la foi. Et que nous puissions dire, oh Seigneur, nous avons encore beaucoup de lacunes, de manquements. Nous n'avons pas encore vraiment osé revendiquer tes promesses et ta parole. Mais maintenant, nous voulons le faire dans la foi. Les disciples ont demandé alors, ici il est dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus, verset 19 de Matthieu 17, et lui dirent en particulier, alors qu'ils étaient seuls donc, pourquoi n'avons-nous, ils étaient sages. Ils n'ont pas posé cette question, alors que toute la foule était encore autour d'eux, mais ils savaient ce qu'ils avaient à dire avec, à parler avec lui. Ils devaient le faire quand tous les autres ne sont pas présents. Oh, nous pouvons parfois apprendre beaucoup de choses. Et ici, une leçon puissante avec nous. Et donc, recevoir avec nous une leçon puissante et repartir à la maison. Si nous lisons avec attention, écoutons et recevons cela dans notre cœur. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier. Donc, c'était quelque chose de personnel qu'ils voulaient savoir. Oh, que nous puissions tous discerner le temps, ce qui appartient au public, ce qui appartient à notre chambre, qu'est-ce que nous pouvons dire en présence et demander en présence des autres, poser des questions en présence des autres, qu'est-ce que nous pouvons faire en présence des autres, mais pas qu'on puisse savoir dans tout le futur, savoir, avoir la balance, savoir qu'est-ce qui est adéquat en public ou bien en privé, questions qu'on pose, etc. Et ici, il dit à cause de votre peu de foi. C'était même pas un grand reproche ou bien des péchés terribles dans leur vie. Non, seulement à cause de votre peu de foi. En français, incrédulité. En allemand, c'est avec à cause de votre peu de foi. Le Seigneur était plein de tact. Il ne donne pas ici de grands reproches. Il dit à cause de votre peu de foi. À cause de votre peu de foi. Si nous accepterions que le Seigneur nous dise que nous sommes incrédules, peut-être ça je le doute, je doute bien. Mais nous avons, et disons Seigneur, notre foi a été faible, a été trop faible. Nous avons hésité, nous n'avons pas comme ça osé mettre notre confiance entièrement en toi comme nous aurons dû le faire. Et avec notre peu de foi, nous t'avons déshonoré ta parole. Et nous n'avons pas les résultats qui sont promis aux croyants, à ceux qui ont la foi. Et cela est valable encore aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas voir ce que nous est décrit dans la Bible, encore maintenant. Donc, c'est notre peu de foi qui en est responsable. Si nous le savons, alors nous pourrons alors être aidés. Le Seigneur, n'est-ce pas, nous a reçu dans son école. Il nous a fait grâce. Nos fautes sont expiées, nos péchés sont pardonnés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons reçu sa parole en nous. Et cette parole ne doit pas revenir à vide à lui ou bien alors sans effet. Mais maintenant, il faut que cela devienne très personnel. À ceux qui ont cru, le Seigneur, n'est-ce pas, a donné tout un nombre de promesses qui, par eux, doivent s'accomplir. Et aussi certain que la parole de Dieu s'est accomplie dans le peuple d'Israël et dans toutes les nations, dans tous les peuples et langues, la parole de Dieu en général. Donc, toutes les prophéties bibliques, n'est-ce pas, s'accomplissent devant nos yeux et deviennent une réalité. Aussi certain aussi, cette parole qui concerne l'Église ne doit pas rester doit pas être une exception. Car chaque parole qui sortit de la bouche de Dieu ne reviendra pas à vide à lui, sans effet à lui, mais elle produira l'effet et exécutera les choses pour lesquelles Dieu l'a envoyé, alors que Dieu avait dit que la lumière soit, que la lumière fut. Quand, ce qu'il a ordonné, ce qu'il a appelé à l'existence a existé. Ce qu'il a dit et la parole qui est sortie de sa bouche qui concerne l'Église. Alors, demandons-nous ce soir, est-ce que ça peut revenir à vide à Dieu sans effet? Non! Il faut qu'elle produise et exécute tout ce que sa sainte bouche a prononcé. Car c'est pour cette raison qu'elle a été prononcée, pour que justement elle ne revienne pas à vide à lui et sans effet, mais que par l'Église, la parole de la promise s'accomplisse, la promesse s'accomplisse, et qu'on puisse, et qu'elle puisse, vous pouvez y croire à ça, et que sa parole produise l'effet pour lequel elle a été envoyée. Il n'y a pas un autre chemin qui mène à la perfection, à l'achèvement de l'œuvre de Dieu. La bouche de Dieu est la bouche d'une véracité absolue. Il n'a pas besoin de retirer une parole ou bien une promesse, ou bien d'annuler. Il a dit exactement ce qu'il pensait et il pense à ce qu'il dit. Aujourd'hui, et il a pensé à ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, il veut nous laisser savoir, à cause de votre peu de foi, c'est à cause de ça que rien ne s'est passé. Mais autrefois, il a eu de la patience. Et aussi avec nous, jusqu'à ces jours. Il y a une chose qui doit arriver. Nous devons avoir une insatisfaction sainte et ne pas être satisfait et de ce que nous avons déjà et passer à l'indifférence. Mais remercier notre Dieu, c'est vrai, pour tout. Et dire, Seigneur, ce qui n'est pas encore accompli, tu l'accompliras. Et nous allons, et nous verrons ta gloire. Ici, il est dit d'une manière si merveilleuse. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, verset 20. Rien et rien ne vous serait impossible si vous aviez la foi. Nous, en tant que croyants, nous disons toujours qu'au Seigneur, rien n'est impossible. Il n'a jamais fait une erreur. Toutes choses lui sont possibles. Il n'y a pas de discussion à cela. Et personne non plus a prétendu le contraire. Mais aujourd'hui, la question est la suivante. Est-ce que nous avons compris que le Dieu Tout-Puissant a déjà tout préparé pour nous et que c'est par l'Église qu'il veut se glorifier et par elle exécuter et accomplir sa parole? Rien ne vous sera impossible, serait impossible. Il ne dit pas, rien ne me sera impossible, mais il dit, rien ne vous serait impossible, toi et moi. Oui, qui sommes-nous en fait? Nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes placés dans la position divine. Nous avons des droits et des obligations. Nous avons reçu des promesses et ces promesses doivent et vont s'accomplir. Là, j'en suis convaincu parce que je le trouve dans la parole de Dieu promis. J'aurais des difficultés à croire si quelqu'un aurait annoncé quelque chose comme ça qui n'est pas écrit dans la parole. Alors là, je me donnerais du temps de réflexion pour croire. Mais si c'est écrit ici dans la parole de Dieu, alors nous pouvons en être sûrs que ça va s'accomplir ainsi tel que c'est écrit. Et rien, c'est écrit ici, rien ne vous qui êtes mes disciples, vous qui me suivez, qui écoutez ma parole, vous qui avez cru en moi, vous, rien ne sera impossible. Est-ce que nous pouvons croire cela? Est-ce que nous pouvons saisir cela? C'est le Seigneur qui l'a dit. Donc, sans effort, seulement croire. Mais la foi, c'est ainsi que nous l'avons toujours entendu et vu dans le ministère de Frère Branham. Il se tenait sur la plateforme et disait, je suis vu de moi complètement sans aide comme vous tous. Je ne peux rien faire comme vous tous. Ce n'est pas moi qui exerce ce don, mais c'est vous qui avez écouté la parole. Vous, c'est vous qui exercez ce don qui est en moi. Seulement là où Dieu peut produire la foi dans la congrégation qui a écouté la parole, c'est ainsi que le don de l'Esprit peut être exercé. Il y a personne qui pourrait venir devant et dire, bon voilà, maintenant nous allons faire ceci, nous allons faire cela, et ceci, cela va encore se passer. Non. Un tel homme de Dieu n'a jamais existé. Des imitateurs, nous savons exactement, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ils disent même cela à l'avance. Mais aux gens, mais jusqu'à la fin, nous n'appartiendrons pas à ces gens. Nous voulons, après avoir écouté la parole originale de Dieu et cru la parole originale de Dieu, nous voulons vivre l'action originale de Dieu. Et là, une harmonie, un travail d'ensemble est nécessaire avec la parole prêchée et tous ceux qui l'ont entendu, qui l'ont cru, qui l'ont écouté, pour que la foi en nous devienne une puissance de Dieu, puisse devenir, et que nous recevions cette assurance et disons, oui Seigneur, tu l'as dit, que rien ne nous sera impossible. Tout nous sera possible, tout nous sera possible, tout. Et comme c'est décrit ici, cette formulation, et rien, il n'y a rien qui vous sera impossible, rien. Vous l'avez vu? À quoi est-ce qu'il s'est référé? On peut continuer à lire encore avec la tempête et tout ça. Tout de nouveau. Même avec la transformation des pains ici, 5 000 et 7 000 personnes. Donc, pour le Seigneur, il s'agissait toujours d'instruire, de produire, d'édifier, de bâtir la foi dans ses disciples. Parce qu'il y a assez d'incrédulité dans le monde. Par ses paroles, par ses œuvres, par son ministère et par son action et par son enseignement. Quoi qu'il faisait, c'était pour bâtir, édifier. Il le faisait pour que dans ses disciples, la foi soit édifiée, soit bâtie et que la confiance en Dieu soit rétablie. Il disait, vous croyez Dieu, croyez aussi en moi. Il voulait, Jean 14, verset 1, que tous ses disciples puissent le croire de tout leur cœur. Et à ce moment-là, toutes choses sont possibles. Car c'est ainsi qu'il a dit, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Car celui qui croit, l'accès au Dieu Tout-Puissant lui est accordé. Sans la foi, nous ne pouvons même pas nous approcher de Dieu. Nous l'insultons si nous venons devant lui avec incrédulité et doute. Celui qui veut venir à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il n'existe pas seulement, mais qu'il est présent et que tous ceux qui les cherchent, il les rémunère. Il les rémunère. Et il leur demande, et il leur accorde, en leur accordant ce qu'ils ont demandé, ce dont ils ont besoin. Est-ce que ce n'est pas une parole merveilleuse? Une parole précieuse. Une plus précieuse que l'autre. Et chaque parole est la vérité absolue. Concernant ces choses, on n'a même pas besoin de crier. Et pas non plus devant essayer de la chair et manifester des forces humaines. Non, la puissance de Dieu est dans sa parole, dans ses paroles. Et si nous avons reçu sa parole en nous, alors l'évangile de Jésus-Christ, le crucifié, à toi et à moi, en moi et en toi, deviendra une puissance de Dieu. Et puisque c'est la puissance de Dieu, alors nous ne voulons pas le savoir dans la théorie que c'est la puissance de Dieu. Nous voulons l'expérimenter dans la réalité. Sommes-nous prêts à croire Dieu? Sommes-nous prêts à nous laisser reprendre par le Seigneur? Oui, Seigneur, si vraiment nous observons cela correctement, alors nous pourrons dire que cela nous concerne aujourd'hui. Seigneur, avec plein d'amour, tu nous dis aujourd'hui, ô vous race incrédule et perverse. Nous sommes toujours, n'est-ce pas, juste à nos yeux. Et nous avons toujours raison. Et le Seigneur dit ici que nous sommes une race d'incrédules et de perverses. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? jusqu'à quand vous supporterai-je? Combien de temps encore? Je dirais, Seigneur, aie patience avec moi. Aie patience avec nous. Jusqu'à que tu puisses exécuter, accomplir tout ce que tu as promis. Produire tout ce que tu as promis. Jusqu'à que la parole et les actions soient en accord, en harmonie. Avec Dieu, c'est toujours la même chose. Parole et action sont toujours exactes, en accord. Et que le Seigneur pourrait réussir à ôter tous les obstacles, tous les scandales, tout ce qui est en relation avec la séduction et la tromperie, qu'il puisse ôter tout ça du milieu de son peuple. Comme souvent, de ma manière, comme un enfant, j'ai dit, Seigneur, ferai-toi le chemin, ferai-moi le chemin pour que je puisse de nouveau te le frayer. Vous savez, parfois on parle comme ça avec le Seigneur et on lui déverse son cœur. Ça, nous pouvons le faire. Qu'aujourd'hui, de cette réunion, tous, de la part de Dieu pour toujours, nous soyons servis et que nous ayons compris que nous pouvons que honorer Dieu par la foi. Amen. Levons-nous pour la prière. Pendant que nous courbons nos têtes et nous examinons devant la face de Dieu et parlons avec lui, nous voulons lui dire, Seigneur, tu as de la patience avec moi, mais aujourd'hui, tu m'as parlé par ta parole. Ô Sauveur fidèle, que les rachetés deviennent les choses pour lesquelles tu les as déterminées. Qu'ils puissent servir à célébrer ta gloire, à célébrer ta gloire. Nous voulons maintenant, avec Dieu, parler. Vraiment, ouvrir notre bouche et nous n'écoutons pas ce qu'un frère ou bien une sœur devant nous, derrière nous, à côté de nous, prie ou bien exprime dans la prière. Chacun cherche le contact personnel dans la prière avec Dieu. Et nous lui disons tout. Nous lui disons la reconnaissance, nous lui exprimons la reconnaissance de ce qu'il ne nous a pas abandonné. Et tous les efforts qui s'est donné avec nous, nous les estimons beaucoup. Il continuera à agir jusqu'à ce que la dernière parole soit accomplie. Nous voulons maintenant vraiment tous entonner comme d'une seule bouche en raison de cette parole. Nous voulons venir à notre Seigneur. Père Céleste, nous avons écouté ta parole. Et c'est d'un côté, nous avons été repris, mais nous avons été aussi consolés. Et nous avons de la certitude parce que nous savons que tu as fait de grandes choses en nous. Ce n'est pas pour nous abandonner en chemin. Tu auras ton chemin avec nous jusqu'à la fin. Et ton œuvre que tu as commencée à chacun de nous, tu l'achèveras certainement pour le jour de ton retour. Seigneur fidèle, et par l'incrédulité et le peu de foi, nous avons été liés et nous n'avons pas pu nous délivrer nous-mêmes. Mais Seigneur, accorde-nous une délivrance spirituelle de nous mouvoir librement dans le cadre de ta parole, dans lequel tu veux nous retenir prisonniers. Que cela, pour que nous puissions prononcer en ton nom et par ta puissance. Et en ton nom et par ta puissance. Seulement si nous avons reçu la pleine délivrance des fils et des filles de Dieu, alors nous serons capables de délivrer tout ce qu'on a besoin de délivrance. Ô Seigneur fidèle, fais de nous des rachetés, des affranchis, des consacrés, des hommes avec lesquels sur lesquels tu peux compter, tout simplement. Oh, notre infidélité t'est connue, notre faiblesse, notre basseur t'est connue, mais nous regardons à toi. Alléluia! Loué et honneur et gloire soient apportés à ton saint nom, Seigneur fidèle. Tu as parlé merveilleusement avec nous. Nous t'avons compris. Et nos cœurs ont assez brûlé, souvent, parce que tu as clairement parlé avec nous. Et clairement avec nous. Maintenant, nous voulons nous tenir devant cette responsabilité et ce devoir que tu nous as donné. Et, Seigneur, voir la restauration et la restitution totale de tout ce qui a été dérobé à l'Église. Oh Seigneur, après cette prédication, que l'Esprit de l'Éternel se repose sur nous, vienne sur nous et se repose pour que nous puissions annoncer aux prisonniers la délivrance et leur dire, vous êtes libres. Alléluia. Honneur et gloire et adoration au nom du Seigneur. Que nous puissions dire aux malades, vous êtes guéris. Alléluia. Seigneur fidèle, tu es notre Dieu. Tu as délivré les captifs. Tu as tout accompli. Alléluia. Louange et gloire soient apportées à ton merveilleux nom, Seigneur. Ce n'est pas de l'orgueil de t'honorer dans la foi. Sauveur, ôte tout cette fausse humilité et cette peu de foi et d'incrédulité. Et ravis-nous dans les sphères célestes pour que nous puissions te croire et te faire confiance. Bien-aimé Seigneur, que nous puissions dire à ceux qui sont perdus, le Seigneur vous a sauvés. Et que nous puissions dire à ceux qui sont liés, le Seigneur vous a délivrés. Et que nous puissions dire à ceux qui sont malades, et nous pouvons le dire, alléluia, parce que cela est vrai. Le Seigneur vous a guéri. Alléluia. Gloire et honneur soit à notre Dieu. Ça, nous le disons en raison de la parole du Seigneur. C'est accompli. Alléluia. Louange et gloire. Si vous pouvez le croire, alors vous pouvez ce soir le recevoir et voir la gloire de Dieu ce soir. La vérité consiste à ce que la parole de Dieu soit confirmée en vous en tant que vrai, en tant que vérité. Pas seulement vérité de la parole, mais vérité en vous, confirmée. Louange et adoration soit à notre Dieu dans toute éternité, d'éternité en éternité. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ô Seigneur. Que cette semence semée puisse germer et que la pluie tombe et le soleil brille sur elle pour que tu sois glorifié. Ce n'est pas nous qui cherchons l'honneur, la faveur. Non, non, mon Dieu. Nous venons devant le camp. Nous sortons dehors, au-delà du camp pour porter ton opprobre. Que toi seul, tu sois glorifié et honoré. Et que les nations ne continuent pas à dire, mais où est votre Dieu qui a fait de grandes choses parmi son peuple? Où est le Seigneur dont vous parlez? Où est-il parmi vous? Oh Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Tu as un chemin merveilleux avec ton Église. Tu marches sur ce chemin avec ton Église jusqu'à la fin. Alléluia. Et la fin sera plus glorieuse que fut le commencement de l'Église. Oh Dieu, nous te disons merci pour toutes les fatigues, tous les efforts que tu as déjà eu avec nous, Nous te remercions de pouvoir te croire et pour cet accès libre que nous avons au trône de la grâce, cette assurance. Je te remercie pour le sang versé de l'agneau. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Oh, je te remercie pour ton action puissante. Nous croyons que ta parole ne revient pas à vide à toi, sans effet. La parole pour Israël va s'accomplir en Israël, va produire l'effet en Israël. Tout ce qu'elle contient va s'accomplir en Israël. La parole qui est adressée à l'Église va exécuter dans l'Église tout ce que tu as voulu, tout ce que tu as dit. Alléluia. Gloire, honneur et adoration soient apportés à ton merveilleux nom. Nous voici, Maître fidèle, agrée-nous. Rends-nous capables de venir à toi dans la foi. Rends-nous capables de comprendre la conduite de ton esprit. Seigneur, agis d'une manière que tous nous puissions la vivre et te remercier. À toi soit la gloire dans toute éternité, la reconnaissance. Amen. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus, Jésus seul. Oui. J'ai touché le bord de ton vêtement et son sang m'a purifié, m'a lavé pur. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus seul. Oui, j'ai touché le bord de son vêtement et son sang m'a purifié.
Amen.
Amen. Amen.